Bonjour, prenez place. Nous allons commencer notre culte. Je vous invite à faire silence un moment, à poser votre semaine devant Dieu, à vous préparer à le rencontrer.
Du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qui nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous sommes une seule Église. Un nouveau jour se lève pour ceux qui se revêtent de l'Esprit, et nous n'aurons qu'un seul rêve, que cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ. Louons Dieu pour nos différences, abandonnons les médisances, que l'œuvre du diable soit mise en lumière, que le Père fasse tomber les barrières. Nous n'avons qu'un avec les anges et nous ici présents, passerons l'éternité ensemble à l'adorer. Alors dès maintenant, vivons dans l'unité. On verra que nous sommes ses disciples, à l'amour qui nous unira. Nous n'aurons qu'un seul but, élever Jésus, et que son salut soit répandu. Pour nous s'est offert nous divise, nous sommes une seule Église.
Bienvenue à chacun dans ce culte, à vous qui êtes ici dans cette salle, et à vous qui nous regardez, qui nous suivez depuis chez vous. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un seul Sauveur, et c'est Lui qui nous accueille ce matin. Nous sommes une seule Église, et bien que séparés, nous sommes ensemble. J'accueille ce matin particulièrement pasteur qui, pour moi, était inconnu ce matin, bien que je connaisse son père et ses tantes, Jean-René Moret, fils d'Étienne Moret, et sa femme Virginie, mais elle n'est pas là, Virginie, ah, tout au fond là-bas, avec leur fille Clara qui a presque un an. Tous deux sont pasteurs, l'un à 60%, l'autre à 40% à Cologny, après avoir fait des études de théologie à Aix-en-Provence. Comme moi, ils viennent du canton de Vaud et peut-être que vous reconnaîtrez quelques traits d'accent. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous t'apportons ce culte, nous te l'offrons. Qu'il soit pour toi un parfum de bonne odeur, que nous puissions passer avec toi au moment où toi et nous, nous ayons du plaisir à vivre ensemble. Nous t'apportons tous les membres de notre communauté, ceux qui vivent des choses difficiles, ceux qui vivent des choses positives. Garde-nous unis les uns aux autres, attentifs les uns aux autres. Merci Seigneur, parce que tu es avec nous. Amen. Nous entrons dans la présence de Dieu, nous entrons dans ses portes et dans ses parvis. Donc, je vous invite à vous lever pour chanter ce chant. Oui, vous pouvez vous asseoir. « Voici venu le temps de reposer nos vies dans la parole. Voici venu le temps de donner de l'espace à notre prière. Voici venu le temps d'accueillir la présence qui nous bénit. Que la paix de Dieu, Père, Fils et Souffle Saint, sois avec nous tous ce matin. Qu'elle nous achemine vers la joie qui est au-dessus de toute joie, et cela dans nos circonstances propres à chacun. Amen.
Thank you.
ta présence, Seigneur. Je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence. Oh Jésus, tu marches devant moi, me montrant le chemin. Conduis-moi vers toi, Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte, je te dans ta présence, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence. Oh Jésus, tu marches devant moi, me montrant le chemin. Prends-moi par la main et conduis-moi vers toi.
Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, ça fait du bien d'être dans ta présence et de se laisser aimer par toi. Donne-nous des oreilles pour entendre ce que tu as à nous dire. Force nos barrières afin que la vie entre en nous. Je te remets Jean-René, je te remets la parole que tu lui as donnée pour nous ce matin. Que ton Saint-Esprit nous accompagne chacun. Amen.
Bonjour à tous. Ça fait plaisir d'être parmi vous ce matin. J'ai presque l'impression de devenir un habitué des lieux. On était ici hier pour célébrer un baptême. On avait besoin de baptiser quelqu'un, pas dans l'eau glaciale du lac, et vous nous avez humblement prêté vos locaux ainsi que le baptistère, et c'était très appréciable. Donc, comme vous le savez sûrement, je suis ici en échange de chair. Céline est à Cologny, en train de prêcher dans notre communauté. Et vous avez des salutations chaleureuses, justement, de la communauté de Cologny, sur notre petite colline, en face de l'autre côté du lac. Ce matin, j'ai choisi de reprendre une prédication que j'ai faite à Cologny sur le thème du racisme et de ce que l'Évangile peut avoir à nous en dire. C'est un sujet d'actualité, et je crois que c'est un sujet auquel l'Évangile a une réponse. Une réponse qui passe aussi par la communauté chrétienne telle que Dieu nous appelle à la vivre. On entend ces temps beaucoup parler du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Si on traduit, ça veut dire « la vie des Noirs compte ». Bien sûr, vous entendez tout de suite des gens qui réagissent en disant « mais la vie de tout le monde compte ». Mais c'est bien le sens. Si il y a un mouvement Black Lives Matter, c'est que les Noirs ont l'impression que, aux États-Unis en tout cas, leur vie ne compte pas, que si un Afro-Américain est tué d'une manière ou d'une autre, tout le monde s'en fiche. Ça veut donc dire « la vie des Noirs compte aussi ». Et ce mouvement dénonce également ce qu'ils appellent le racisme institutionnel, c'est-à-dire que parfois, le fonctionnement même de la société, les instances, font que les gens sont traités de manière discriminatoire, même si individuellement, chaque personne qui est dans les rouages du système n'est pas raciste, ne se sent pas raciste et ne cherche pas à l'être. Bien sûr, les États-Unis ont une histoire particulière, chargée avec le passé de l'esclavage et de la ségrégation et toutes les questions sur le rôle de la police. Alors il ne s'agit pas de disséquer toute l'histoire américaine et d'entrer dans leur situation, mais de parler de ce thème avec ce qu'il a d'important et de valable à toutes les époques et en particulier pour nous aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est tentant de se dire que ça ne nous concerne pas, que nous, on n'est pas raciste, qu'on n'a pas de problème avec ça. Mais je crois que dans le fond, si on regarde bien, on reste sensible à ces questions-là. On garde une tendance à entrer plus facilement avec des gens qu'on perçoit comme étant de la même ethnie que nous, du même groupe. Je crois d'ailleurs que ce n'est pas spécifique aux petits blancs que d'autres peuvent avoir tendance à se sentir plus à la maison avec ceux qui leur ressemblent davantage. Et puis pour donner un exemple personnel, ma femme et moi, on cherchait cette année un nouvel appartement pour notre famille, puis on savait qu'on n'avait pas un revenu énorme par rapport à la taille d'appartement qu'on cherchait, mais on savait aussi que, qu'on le veuille ou non, étant un couple de deux Suisses, on avait des meilleures chances que si on avait eu un nom bosniaque ou africain, avec le même revenu et en cherchant le même genre d'appartement. Ce n'est pas quelque chose qu'on trouve bien, mais quelque part, on sait que ça fait partie de comment les choses marchent dans notre pays. Et je crois qu'en y regardant bien, il y a dans la mentalité suisse une sorte de hiérarchie implicite, où on place en premier lieu, bien sûr, les Suisses qui sont comme nous, qui sont d'ici, qui ont tous leurs droits de se trouver là. Ensuite, probablement, les anglo-saxons, ils ne parlent pas notre langue, mais en général, ceux qui viennent ici, c'est plutôt ceux qui ont de l'argent et un certain prestige. Ensuite, on a les Français, alors, qui ont grosso modo la même culture que nous, mais quand même, c'est des frontaliers. Soit ils sont en train de nous piquer nos jobs, soit ils sont en train de faire ce qu'on ne voudrait pas faire nous-mêmes. Donc, on les prend un petit peu de haut et puis on râle un peu. Ensuite, un petit peu dans un même sac, les Italiens, les Espagnols, les Portugais. Puis, on ne sait pas exactement de quel ordre placer les Asiatiques, ceux qui viennent des Balkans ou des Sud-Américains. Et puis, malheureusement, on a une tendance à mettre les Africains au bas de l'échelle. C'est bien sûr pas quelque chose que je prône, ni quelque chose dont je suis fier. Et j'ai d'ailleurs jamais entendu personne établir cette liste et puis dire que c'était comme ça qu'il fallait voir les choses. Mais je crois que je n'ai pas eu beaucoup de peine à savoir que l'instinct et la coutume tendaient à classer les choses ainsi. Et en y réfléchissant, je me suis aussi dit, ce n'est pas forcément qu'une question de quelle capacité génétique on attribue aux gens, c'est aussi un a priori sur qui va être riche et bien éduqué. Et puis que si on se rend compte que en fait, l'Africain qu'on a en face de nous travaille pour l'ONU et gagne plus et a deux doctorats, eh ben, on va le placer différemment dans l'échelle. Ce n'est pas du tout une excuse et ce n'est pas mieux du tout. On n'est pas non plus censé discriminer les gens en fonction de leur niveau éducatif ou de leur prospérité. Mais je dis ça avec beaucoup de franchise, tout en considérant bien sûr que c'est mauvais, qu'il ne faut pas fonctionner comme ça. Et je crois aussi qu'après, une fois qu'on connaît les gens, ça devient plus une question de personne. On connaît les gens individuellement et puis on n'est pas forcément tout à fait coincé par ces a priori. Mais je crois que ces a priori sont là, en tout cas, dans nos premiers regards. Après, si on parle du racisme proprement dit, la définition la plus rigoureuse du racisme, c'est une conception où on voit l'humanité divisée en différentes races et où ces différentes races ont des capacités et une valeur différente. Ce n'est pas forcément exactement ce qu'on vit au quotidien, mais je pense par contre qu'on a tous une tendance à catégoriser, à classer, et à se dire, ben, ceux-ci ils sont ainsi, ceux-là ils sont comme ça, et puis à donner une place différente aux uns aux autres. Et peut-être que c'est le cas de tout le monde, je ne pense pas que c'est forcément que notre cas à nous maintenant dans notre époque. Une autre chose qui est perverse avec le racisme, c'est qu'il peut être aussi intériorisé par ceux qui en sont victimes. Je lisais dans un livre, dans le contexte américain encore, un exemple de jeunes afro-américains qui réussissaient bien à l'école, qui apprenaient des bonnes choses, mais qui du coup se le faisaient reprocher par d'autres afro-américains qui les accusaient de se comporter comme des blancs. Pendant tellement longtemps, les Africains n'avaient pas eu le droit d'aller à l'école, n'avaient pas eu le droit d'avoir une bonne éducation, que certains l'avaient intériorisé et pensaient que c'était trahir leur ethnie, leur identité, que de progresser dans ce domaine-là. Et ça fait partie des choses qui font que le racisme est vraiment un mal qui est durable et qui est pervers. Alors, ayant posé un petit peu le problème, on peut se poser la question importante, enfin la question en tout cas qu'on est censé aborder dans une prédication, qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que l'Évangile peuvent nous dire sur tout ça ? Premier point essentiel, c'est que d'après la Bible, il y a une seule humanité. Tous les êtres humains sont descendants d'Adam et Ève. Il n'y a pas plusieurs origines selon les races, selon les ethnies. Et il y a un seul destin pour tous les êtres humains. Il n'y a pas une destinée pour les Africains, une destinée pour les Asiatiques, et ainsi de suite. Et dans le livre de la Genèse, au chapitre 9, Dieu annonce qu'il demandera compte pour la vie de l'être humain, que quiconque prendra la vie d'un être humain, Dieu demandera des comptes pour la vie de la personne qui a été tuée. Et il n'y a pas de différence. Ce n'est pas la personne qui est du même peuple que toi, ce n'est pas la personne qui appartient à telle nationalité. C'est pour tous et chacun la même chose. Donc c'est fondamentalement juste et biblique de dire « Black Lives Matter », la vie des Africains compte aussi, la vie de tous les hommes a la même valeur aux yeux de Dieu. Et le fait que tous les hommes ont la même origine, sont issus d'un même homme, d'un même dessein créateur de Dieu, c'est aussi plusieurs fois rappelé dans le Nouveau Testament. Je vais juste lire ce que Paul disait à Athènes. En acte 17, verset 26, Paul disait « À partir d'un seul être humain, Dieu a créé tous les peuples et les a établis sur la terre entière. Il a fixé pour eux le moment des saisons et les limites des régions qu'ils devaient habiter. Il a fait cela pour ce qu'ils cherchent Dieu et qu'en essayant tant bien que mal, ils parviennent peut-être à le trouver. » Et en réalité, Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Et ce qui est important de souligner aussi, c'est que le racisme, à proprement parler, a pu monter à partir du moment où le présupposé chrétien s'est affaibli. On pense parfois, surtout aujourd'hui, que c'est quelque part la faute des chrétiens s'il y a du racisme, mais en fait, le racisme n'est pas le fruit du Moyen-Âge, c'est le fruit des Lumières et du 19e siècle. Et par exemple, En me renseignant un peu, j'étais tombé sur un extrait de Voltaire qui prenait comme une évidence qu'avec les différences entre Asiatiques, Africains, Européens, c'était clair qu'ils ne pouvaient pas avoir la même origine, pas plus que le poirier pouvait avoir la même origine que l'abricotier ou le chien la même origine que le poney. Et en disant ça, il pensait être beaucoup plus éclairé que les dogmes autoritaires transmis par l'Église qui disaient qu'on avait tous une même origine. Mais alors, s'il y a une seule origine à l'humanité, d'où viennent les divisions, d'où viennent les séparations et les tensions qu'on observe? Eh bien, d'après la Bible, cette désunion de l'humanité provient de la rupture avec Dieu. Immédiatement après la révolte de l'être humain contre Dieu, on a déjà l'histoire de Caïn et Abel, de Caïn qui tue son frère Abel. On a le début de la violence et de l'oppression. Ensuite, on a la tour de Babel, où l'humanité essayait d'utiliser son unité pour prendre la place de Dieu. Et pour arrêter la folie de l'être humain, Dieu a dû les diviser en séparant leurs langues. Et depuis la révolte de l'être humain contre Dieu, l'homme porte en lui la tendance à l'oppression, au pouvoir du plus fort, à maltraiter ceux sur qui on a l'occasion d'avoir le dessus. Cela dit, on voit assez peu de racisme à proprement parler basé sur la couleur de peau dans la Bible. Il y a une conscience, par exemple, que les Éthiopiens ont la peau noire et qu'ils ne peuvent pas la changer, mais ce n'est pas vraiment dit pour les voir comme supérieurs ou inférieurs, ni même parce que quelqu'un l'aurait vu comme ça. J'ai cependant trouvé un exemple que je trouvais illustratif dans l'Ancien Testament. Dans le livre des Nombres, au chapitre 12, c'est donc au moment où les Israélites sont dans le désert, sous la conduite de Moïse. Et on a Myriam et Aaron, le frère et la sœur de Moïse, qui lui font des reproches parce qu'il a pris une femme éthiopienne. Ce n'est pas explicité si la couleur de sa peau était un problème pour eux. Mais en tout cas, Dieu prend la défense de Moïse et il va sanctionner en particulier Myriam pour ce problème-là. Et la sanction est que Myriam est frappée d'une lèpre blanche comme la neige, est exclue du camp pendant 7 jours jusqu'à qu'elle soit purifiée de cette plaie de lèpre. Je crois qu'il y a quelque chose de très ironique dans cette sanction que Dieu inflige. Certainement, ça veut dire « Ah, tu trouvais que ta belle-sœur a la peau trop foncée, eh bien moi je vais te rendre la peau trop blanche. Tu veux de la blancheur, eh bien je vais t'en donner, mais une blancheur malsaine, qui montre combien c'était malsain d'avoir un problème là-dessus. » Mais à part cet épisode, on voit dans l'Ancien Testament, et d'ailleurs dans le Nouveau aussi, beaucoup plus la question pour le peuple d'Israël de la circoncision et d'incirconcision. Le peuple d'Israël avait plus de problèmes avec ses voisins immédiats, qui n'étaient pas notablement différents en termes de race, non pas que race veuille dire quelque chose de réel. Ils avaient plus de problèmes avec leurs voisins qui n'étaient pas très différents d'eux en termes de couleur de peau ou autre qu'avec des peuples issus d'autres continents. Et puis, quant aux Grecs, ils avaient plus la tendance à distinguer entre les Grecs et les barbares, donc ceux qui parlent la même langue ou les autres, et ceux qui profitent de la civilisation et ceux qu'on considérait comme des non-civilisés, comme des arriérés. Donc, le racisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose un problème qu'on s'est fait nous-mêmes, voilà, comme je disais, en particulier au XIXe siècle, où on pensait d'ailleurs que c'était très scientifique de chercher des catégorisations, de faire des classements et d'essayer de prouver dans la physionomie des uns ou des autres que certains étaient plus faits pour les travaux manuels ou plus intelligents. Et maintenant, qu'est-ce que l'Évangile a proprement parlé à dire sur le problème? Qu'est-ce que la venue de Jésus-Christ change? Jésus est venu permettre la réconciliation entre Dieu et les hommes. Mais qu'est-ce que ça a comme conséquence? Là encore, il y a peu de mentions de race dans le Nouveau Testament, mais j'ai vu deux exemples intéressants dont je voulais vous parler rapidement. Le premier, c'est que la première personne qui n'est pas d'origine juive, qui reçoit le baptême, c'est un eunuque éthiopien, dans le livre des Actes, au chapitre 8. Et l'autre mention, c'est toujours dans le livre des Actes, mais au chapitre 13, le livre des Actes fait la liste des responsables de l'église d'Antioche. Et je vous lis juste Actes 13, verset 1. Dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des enseignants, Barnabas, Siméon, surnommé Le Noir, Lucius de Cyrène, Manaen, compagnon d'enfance d'Hérode qui régnait sur la Galilée, et Saul. Donc on a cette mention de Siméon qui est surnommé Le Noir. Ça veut certainement dire qu'il était d'origine africaine, mais l'auteur ne trouve pas le besoin d'en dire quoi que ce soit d'autre. Il y avait quelqu'un de peau noire dans les responsables de cette église. Ça ne soulevait pas de questions, ça ne soulevait pas de problèmes. Il n'y a pas besoin de justifier ce fait. Il n'y a pas non plus besoin de se rengorger en disant « Regardez comme on est ouvert et inclusif, il y a même un Africain dans les responsables de notre église. » C'était juste un fait naturel et accepté. Mais plus fondamentalement, ce que la venue de Jésus change, c'est de créer une nouvelle humanité réconciliée par Jésus-Christ, de revenir au projet de Dieu d'avoir une humanité unie dans l'amour de Dieu et la communion avec lui. Et je lis à ce sujet dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, les versets 26 à 29. Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi qui vous lie à Jésus-Christ. Vous tous, en effet, vous avez été unis au Christ dans le baptême et vous avez ainsi revêtu la manière d'être du Christ. Il n'y a plus ni juif ni païen. Il n'y a plus ni esclave ni citoyen libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. En effet, vous êtes tous un, unis à Jésus-Christ. Si vous appartenez au Christ, vous êtes alors les descendants d'Abraham, et vous recevez l'héritage que Dieu a promis. Si on appartient à Jésus-Christ, on est tous un, on forme un même corps, on est tous les descendants d'Abraham que Dieu avait choisi comme fondement et base de son peuple. C'est ce qu'on a entendu dans le chant d'introduction. Nous sommes une seule Église. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Et je voulais dire encore dans le même sens, en Colossiens 3, verset 11. Il n'importe donc plus que l'on soit païen ou juif, circoncis ou incirconcis, non civilisé, primitif, esclave ou libre. Ce qui compte, c'est le Christ qui est tout et en tous. Donc là encore, Paul ne l'énonce pas en termes de race, au sens où on l'a aujourd'hui, mais par contre, il prend toutes les divisions de l'époque entre les juifs et les païens, entre les civilisés et les non-civilisés, entre les grecs et les barbares, entre les esclaves et les libres. Il dit tout ça ne compte plus. Tout ça n'a plus de valeur, n'a pas lieu d'être au sein de l'Église, parce qu'on est rassemblés par l'Évangile, par la même appartenance à Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ, Dieu rassemble une nouvelle humanité dans l'amour que nous recevons de Dieu et qui nous appelle à manifester les uns aux autres. Par l'Évangile, ceux qui étaient rejetés sont accueillis. Ceux qui ont été opprimés savent qu'en Jésus se trouve la libération. Savent aussi que leurs oppresseurs n'auront pas toujours le dessus, que Jésus reviendra rétablir la justice, que tous ceux qui bouleversent la terre, tous ceux qui maltraitent leurs prochains, vont être jetés au bas de leur piédestal, que seul Christ règnera, qu'il rassemblera un peuple de toutes les langues, de toutes les ethnies et de toutes les nations, et que aucune différence n'aura cours à ce moment-là. Et l'Évangile nous appelle aussi à transformer nos regards, à regarder chaque être humain comme une créature de Dieu, appelée par lui à connaître Jésus-Christ, à être réconcilié avec lui. Et que chaque chrétien est un frère, un enfant de Dieu, un descendant d'Abraham. Et l'Église doit être l'exemple, la manifestation d'un Dieu où il n'y a plus de distinction, où les divisions qui ont cours dans l'humanité actuelle sont dépassées. C'est l'idéal pour l'humanité dans l'ensemble, mais ça doit être particulièrement réalisé dans l'Église et nous devons en être un exemple, également un ferment. Nous devons aussi chercher, autant que nous le pouvons, à manifester dans la société, à faire avancer dans la société l'unité et le respect pour tous qui est la volonté de Dieu. Nous devons manifester que tous ont été créés par Dieu et méritent le même respect, la même place. Je voulais encore lire un ou deux versets de l'Épître aux Éphésiens. L'apôtre Paul écrit « Par sa mort sur la croix, le Christ les a tous réunis en un seul corps et les a réconciliés avec Dieu. Par la croix, il a détruit la haine. Le Christ est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin et la paix pour ceux qui étaient proches. C'est en effet par le Christ que nous tous, ceux qui sont juifs et ceux qui ne le sont pas, nous avons un libre accès auprès de Dieu, le Père, grâce au même Esprit Saint. Par la croix de Jésus-Christ, Dieu a brisé tout ce qui fait hostilité entre les hommes. Il nous a réunis dans un seul corps, par un seul esprit. C'est cela que nous sommes appelés à vivre. En conclusion, je voudrais dire que le racisme et les discriminations sont des vrais problèmes, des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Dieu a créé une seule humanité, a voulu au départ une humanité unie. Et l'humanité n'a été divisée que qu'en conséquence de la rébellion de l'être humain. Et la tendance humaine à l'oppression, à la discrimination, à maltraiter son prochain, sont les conséquences malheureuses de la révolte contre l'être humain qui a tordu nos cœurs et nos affections. Et Jésus-Christ amène la réconciliation de l'homme avec Dieu, mais aussi la réconciliation entre tous les frères ennemis que nous avons dans l'humanité. Et l'Église doit être le lieu où c'est manifeste, le lieu où le monde voit qu'il est possible de dépasser toutes ces fractures et ces ruptures, le lieu où Dieu rassemble un peuple nouveau par la foi en Jésus-Christ. Et ça doit à la fois être attirant pour notre monde au proie aux divisions et à l'oppression, et à la fois servir d'exemple pour donner envie au monde de vivre plus de justice, plus d'accueil, plus d'équilibre. Alors que Dieu nous vienne en aide pour que nous puissions vivre cela dans toutes nos communautés et le manifester partout où Dieu nous place. Amen.
vous invite à un moment de prière communautaire où la possibilité vous est offerte de réagir à ce que vous avez entendu. Merci pour les réflexions intéressantes, Jean-René. Nous prions. Seigneur, nous nous plaçons devant toi avec nos difficultés respectives à accepter l'autre tel qu'il est dans ses différences, race ou pas race, qui nous heurte parfois. Viens-nous en aide. Amen. 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 Et pour manifester que nous sommes en communion avec les frères et sœurs de notre grande famille chrétienne de par le monde, celles que nous avons sur le cœur en pensant à toutes les souffrances, celles que nous avons dans le cœur en pensant à toutes les, à tous les liens qui nous unissent, je vous invite à vous lever et à chanter le Notre Père.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Bonjour. Alors, les annonces qui seront plusieurs parties. Déjà, pour annoncer, donc le Eric Henry a perdu son papa cette semaine. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas là ce matin. Aussi, vous annoncez, certains le savent déjà, le décès de Jacques Krebs. Jacques Krebs était vraiment un pilier de nos relations œcuméniques, en particulier avec la paroisse protestante et pour la gestion commune de la chapelle. Donc c'est vraiment quelqu'un qui était très attaché aussi à notre église, et les relations étaient toujours magnifiques avec lui. Et nous pensons bien à lui, à sa famille, à toute sa famille, à Claude, à toute sa famille pendant cette période. Alexandre Paulet est hospitalisé aussi. On ne sait pas encore exactement, il a encore des examens ce matin, mais aussi, on peut vraiment penser à lui et penser à Anne. Denise va prier.
Je propose de prier pour chacun. Seigneur, nous te remettons Eric qui a perdu son papa. Le service a déjà eu lieu vendredi. Pour Claude Krebs, la femme de Jacques et toute sa famille, afin que ta présence à leur côté dans cette tristesse leur soit perceptible, qu'ils puissent te parler, te raconter ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux-mêmes, qu'ils sentent qu'ils sont entourés par toi et par l'amitié de tous ceux qui les connaissent. Nous te remettons aussi Alexandre, nous te remettons les médecins, afin qu'ils prennent les bonnes décisions. Nous te le remettons lui-même dans sa maladie, afin qu'il puisse la vivre dans la communion avec toi. Et nous te remettons Anne dans les inquiétudes qui peuvent être les siennes, et ses fils et leur famille. Amen. D'habitude, à ce moment du culte, nous avons l'offrande. Vous pouvez la faire en sortant dans la petite caissette qui est là derrière vous. Vous pouvez aussi le faire par tweet ou par le CCP. Et maintenant, la suite des annonces.
Alors, mardi soir, donc la prière communautaire de l'église. À 20h15, normalement c'est dans la salle du CTT, je pense que si on est trop nombreux, ça passera peut-être ici, mais normalement en bas. Et c'est Célina qui conduira ce moment. Dimanche prochain, le culte sera animé par le CTT. Donc on se réjouit. Alors, l'action des paquets de Noël, là, j'espère que vous arrivez à voir. Il y a toutes les indications sur le slide. Peut-être qu'il faut baisser le store. Voilà, alors on vous avait dit que cette année, c'était uniquement donner de l'argent et que Annick et Anne-Marie achèteraient toutes les denrées. Mais ça, comme vous avez vu maintenant, pour les jouets, pour ça, vous pouvez les apporter. Mais tout ce qui est denrées alimentaires, ça, c'est Anne-Marie et Annick qui s'en chargeront. Donc, il y a les boîtes. Il y en a une là, il y en a en bas. Donc, dans le couloir aussi, vous pouvez déposer ce que vous pensez donner. Donc, vous avez vu le prix indicatif d'un paquet, c'est dans les 30 à 35 francs. Voilà. Donc, rappel que Philippe est en vacances jusqu'à jeudi soir. Il reprend vendredi. Il profite, il avait bien besoin d'un temps de décompression. Donc, aussi penser à lui, qu'il ait un bon temps de récupération. Jean-René a une annonce aussi.
Je
J'en avais parlé à Philippe et il m'a demandé de vous dire un mot pendant que j'étais là. Il s'agit d'une conférence qu'on organise jeudi dans 10 jours, donc le 29 octobre à Colonier, sur le thème du travail. J'ai donné comme titre « Le travail, gagner sa vie ou la perdre ». Le travail, c'est quelque chose qui concerne ou concernera ou a concerné la plupart d'entre nous et où il y a beaucoup de questions qui se posent entre ceux qui mettent toute leur énergie jusqu'à plus pouvoir ou ceux qui ne trouvent plus de sens dans ce qu'ils font. Et puis là, on invite Michael Gonin, qui enseigne l'éthique à la Haute École de Théologie à Saint-Léger, ce qui était l'Institut Emmaüs. Et donc, Michael Gonin enseigne l'éthique là-bas, et puis il a beaucoup travaillé sur cette question du travail, et puis il va apporter des pistes pour donner un sens au travail, mais d'une manière juste, dans une perspective chrétienne, à la fois lui donner tout son sens sans en faire une idole. Et puis c'est aussi le genre de conférence qu'on organise en cherchant à ce qu'elle soit accessible à des gens qui ne sont pas forcément des chrétiens, mais qui se posent des questions sur, en l'occurrence, sur leur vie professionnelle, comment le regarder. Donc n'hésitez pas à inviter. J'ai amené un petit paquet de flyers. Je ne sais pas encore où je vais les poser, mais je les poserai quelque part. Et puis servez-vous-en. Voilà, on me dit à l'entrée, je pense à l'endroit habituel, on trouvera. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction finale. Le Christ est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin et la paix pour ceux qui étaient proches. C'est par le Christ que nous tous, ceux qui sont juifs et ceux qui ne le sont pas, nous avons libre accès auprès de Dieu le Père, grâce à un même Esprit Saint. Allons dans la paix du Christ. Amen.
Encore, on a eu des nouvelles un peu tristes ce matin, mais j'aimerais quand même dire encore quelques mots. Vendredi passé, André Girardet a fêté ses 90 ans. Je sais, André, que je vais froisser ta modestie, mais nous aimerions quand même te remercier pour tout ce que tu as apporté et apportes encore à notre communauté. Pour tous les services rendus avec la discrétion et la modestie qui te caractérisent. Ta fidélité et ta foi, malgré les épreuves qui ne t'ont pas épargnée, sont un exemple pour beaucoup, et pas seulement au sein de l'Église. Tous nos vœux t'accompagnent, ainsi que ta famille.